RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et on est de retour dans l'After, encore une heure en votre compagnie avec Ali Benarbi, avec Daniel Riolo. On vous rappelle que ce soir, premier match de la 16e journée de Ligue 1, Dijon a battu Bordeaux 3-2. On vous rappelle également que la Juve a battu le Napoli 1-0. Du coup, la Juve revient à un point de Naples. On reviendra sur ce match dans quelques instants avec Simone Rovera. Et puis ça joue également au Portugal. Il reste un quart d'heure dans le Classico entre Porto et le Benfica. 0-0 toujours entre les deux équipes. Le championnat portugais qui est hyper serré entre les trois gros. Et là maintenant, on va s'intéresser au tirage au sort de la Coupe du Monde. C'était cet après-midi. On connaît les groupes. Dans le groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Groupe C, la France. France, Australie, Pérou, Danemark. Dans le groupe D, on a l'Argentine, l'Islande, la Croatie, le Nigeria. Dans le groupe E, le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Et groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. Ali, Daniel, on va d'abord s'intéresser au groupe de l'équipe de France, le groupe C. France, Australie, Pérou, Danemark. Vous pouvez pas rêver mieux.
D'une, c'est un groupe faible, faut le dire. Je dis tranquillement. Et de deux, tu commences par l'Australie.
Ah, il y avait peut-être plus faible que Danemark. Ça pouvait se faire encore.
Tu penses à quoi?
Attends, Daniel, c'est pas le Danemark qu'on a connu. Hein. Ouais, c'est de l'humour.
Non, mais je pense qu'on pouvait faire mieux encore. Il y a peut-être matière à faire un chouïa mieux.
Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver?
Mieux.
C'est chapeau 3. Donc chapeau 3, c'était Danemark, Islande, Suède. Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal, Iran.
Ça, t'aurais préféré quoi, la Suède ou le Danemark?
Ouais, Suède, c'était un peu moins bien. Suède, c'est un peu moins bien.
Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Oui.
Si Suède, c'est un peu moins bien que Danemark.
Non, je suis pas sûr.
Depuis tout à l'heure, toute la journée, on a répété. C'est le meilleur des tirages. J'essaie de trouver encore mieux, moi.
Voilà. Il y a pas.
J'essaie de trouver encore mieux parce qu'Australie, je veux bien les changer contre Panama ou Iran. Mais enfin, c'est pareil, quoi. Australie, c'est tellement faible qu'on est content.
J'ai vu. Ils ont été barragistes en Asie, attention. Pour te dire que notre équipe sont meilleures que l'Australie.
Plus faible que le Danemark, quoi. Il y a peut-être Suède.
Non, mais qui plus est, c'est une bonne chose pour l'équipe de France pour préparer, pour tourner et avoir tout le monde frais pour les huitièmes. Parce que les huitièmes, qu'on a beau dire ce qu'on veut, que tu tombes sur le Nigeria, la Croatie, l'Argentine, c'est sur un match. Et on l'a vu. Rappelle-toi le début du match contre le Nigeria. C'était chaud, hein.
Oui, je me souviens encore. Le huitième
de finale. Tu vois déjà en train de faire tourner, toi.
Ben, les grandes équipes.
Non, mais d'accord, en 2010, on disait la même, et puis au final, on s'est fait retourner, surtout.
Il faut oublier 2010.
Ah, bah non, faut pas oublier. Non. Ça fait partie de l'histoire.
Moi, j'oublie 2010 dans le sens où t'avais une différence entre des anciens, des jeunes qui arrivaient, un coach qui se cherchait.
Oui, ça a été fait.
Ça faisait beaucoup trop de choses.
Je crois que le coach, il se cherchait pas.
Non, il s'était trouvé.
C'est ça le problème.
Non, mais par rapport
le problème,
à son équipe.
C'est qu'il s'était trouvé.
Non, par rapport à son équipe, il était pas sûr entre garder Thierry Henry, ne pas le prendre. Il y avait beaucoup de choses entre
les anciens. Il y avait un peu n'importe quoi dans
voilà,
dans
exactement. Alors que là, non, Deschamps, c'est clair. Groupe, c'est clair, Deschamps. Et ce groupe-là.
Il faut peut-être plus penser à d'autres Coupes du Monde que celle-là, qui c'est vrai, est un petit peu un ovni. 2006, si on veut se faire un petit peu peur là. 2006, tu vas en finale alors que dans la phase de groupe, t'es pas bien du tout parce que tu commences par deux matchs nuls contre Suisse et Corée du Sud. Ouais. On va dire que Suisse est équivalent de Danemark, que Corée du Sud, c'est notre Pérou de cette année. Mm-hmm. Et tu t'étais retrouvé à devoir gagner dans le dernier match 2-0 contre le Togo. Évidemment, la France a fini par le faire. Et derrière, ça s'est enquillé comme il fallait. Et on a l'impression de pas avoir vu la même équipe. Après, une fois que les joueurs ont pris les choses en main,
mais la Corée du Sud, c'était chez eux.
De Daniel, s'occuper d'autres choses.
Obligé. La Corée du Sud, c'était chez eux.
Non,
pas
en 2006.
Hein,
pas 2006.
Ah, c'est 2002. 2006.
Et ça s'est bien terminé ensuite. Mais dans la phase de poule, ça a été compliqué malgré un bon tirage.
Donc c'est pour
il y a
ça
l'exemple
qu'on
de 2002 aussi, de bon Cristiano. Tirage et tu t'en sors pas. 98. Très bon tirage et tu t'en sors. Il y a pas de vraie règle finalement.
Non.
Maintenant le fait que
mais
tu prennes
des équipes
comme il y a quatre ans,
faible,
c'est-à-dire tu
c'est
joues
quand
un
même mieux.
Oui, évidemment. Après l'ordre des matchs ça compte. Tu joues l'Australie comme tu as joué le Honduras il y a 4 ans, c'est-à-dire tu peux tout de suite faire un petit carton.
De suite.
Alors tu joues l'Australie le 16 juin à Kazan, le 21 5 jours après tu joues le Pérou à Yekaterinbourg et le 26 tu joues le Danemark à Sochi.
Il faut essayer d'envisager, puisque tout a l'air si facile, tu peux, même en envisageant le scénar un peu cata, le fait de démarrer par l'Australie, c'est un atout. Parce que tu sais que tu démarres avec 3 points. Imagine que derrière, ça se goupille pas bien et que tu fasses, allez, 2 nuls.
Ouais.
2 nuls, ce serait déjà pas bien. Mmh. Mais avec 5 points, tu dois pouvoir t'en sortir.
Ouais, tu passes.
tu perds le Danemark, tu fais nul contre le... Ah, vraiment, je suis en train de t'envisager des trucs affreux.
Oui,
hein.
Non, non, non.
4 points, t'es peut-être encore dans le coup si t'as collé une bonne raclée à l'Australie d'entrée. Mmh, mmh. Tu vois? Donc, là, même en voulant vraiment tout envisager, ne pas sortir du groupe, c'est compliqué. Et donc, le fait de démarrer avec l'Australie, si tu leur en colles une belle d'entrée... C'est très avantageux parce que ça veut pas dire. Après, ça peut se jouer aussi si t'es si t'arrives pas à te démarquer des deux autres que sont Danemark et Pérou, ça peut se jouer à qui a mis la plus grosse trempe à l'Australie. Donc, c'est mieux de commencer par ça tout de suite et de leur en coller une belle d'entrée, quoi.
Ah. Non, mais ce qui est bien dans le sens où tu bats l'Australie déjà et tu attaques le Pérou, il a quand même des joueurs pour faire déjà tourner un ou deux joueurs.
Pas génial non plus le Pérou. Ah, tu veux dire tu peux
déjà
faire
dès le deuxième match. Et après retrouver encore ces fameux joueurs pour le Danemark, c'est-à-dire que dans ce groupe-là, ça va lui permettre peut-être de changer chaque fois deux joueurs par match, ce qui t'amène à arriver en huitième à 100%, ce qui n'a pas été le cas.
On va écouter la réaction de Didier Deschamps après ce tirage au sort. La France favorite, forcément un statut assumé pour les Bleus.
On aurait pu avoir un groupe plus difficile, plus compliqué, voilà. Il est ce qu'il est, j'ai pas d'influence sur les boules au tirage.
Pas d'influence sur les boules au tirage. Cela dit, il est honnête. Hein. Souvent, ils nous servent la soupe. Oui, non,
là,
c'est pas facile.
Ça aurait été plus dur. Quoi. Ouais, c'est sûr.
Voilà. On va accueillir Imad, supporter de l'équipe de France, qui nous a appelé au 32-16. Salut Imad.
Ça va,
Imad.
Ouais, écoute, ça va. Ouais, enfin, moi, quand j'écoute les discours de tous ceux, enfin, les commentaires de ceux qui sont passés ce soir, enfin, je me pose des questions. Enfin, moi, ça va, mais je me demande si. Vous, ça va, si vous allez enfin accepter d'être favori, qu'on accepte d'être favori, qu'on arrête d'avoir peur.
Exactement. Parce qu'il t'a semblé qu'on avait peur.
Ah, mais enfin, peut-être pas toi, mais enfin, quand j'entends les discours, honnêtement,
qui t'a semblé avoir peur? Tout le monde dit depuis tout à l'heure que c'est facile.
Enfin, c'est facile, non. Tout à l'heure, j'ai entendu Lionel Charbonnier. Excuse-moi, je me pose la question. Il a été champion du monde ou... Enfin, je sais pas, il a fait un tournoi de futsal ou il a été champion du monde? Je comprends pas. Il y a un moment donné...
Mais ça veut rien dire, Imad. Tu peux avoir été champion du monde il y a 20 ans et...
Faire du futsal.
Oui.
Non, mais attends, c'est quoi? Tu vas à une Coupe du Monde et pour être champion du monde. Quand j'entends le discours du président de la Fédé qui nous dit on vise les demi-finales. Pardon, excuse-moi, moi je vais pas en Coupe du Monde, j'ai pas envie d'aller en Coupe du Monde pour viser la demi-finale.
Alors c'est intéressant ce que dit Imad.
En revanche, là-dessus, je te suis.
Ouais. Ne dis rien, ne dis pas.
Tu dis un truc qui est très simple. Notre objectif, on est l'équipe de France, on a une belle équipe, on veut aller le plus loin possible.
Ben voilà, c'est encore
plus. Tu dis,
plus
je veux aller le plus loin possible.
Tu sais que parce que dès que t'arrives dans les huitièmes, ça y est. Le Portugal a fait ça du début, c'est-à-dire même avant le troisième match à l'Euro, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, on n'est pas favori, mais l'objectif, c'est d'aller au bout.
Tu dis, c'est exactement comme n'importe quel mec, même qui fait un tournoi de quartier.
Il le fait pourquoi?
Tu veux faire le plus possible.
Exactement.
C'est quoi ces trucs de surtout que je vais te dire, Imad, là où t'as raison.
Demi-finale.
À contrario, je vais raisonner à l'inverse de toi pour aller dans ton sens. Mais ça ne veut rien dire, dernier carré. C'est comme tous ceux qui disent, ouais, le PSG, c'est minimum dernier carré, sinon c'est un échec. Ah, si tu tombes sur le Real en huitième. Il se passe quoi? Et si l'équipe de France, elle perd contre l'Argentine
en huitième.
Qu'est-ce que tu veux faire si tu tapes sur Léo Messi qui te met deux coups francs ou un exploit ou quoi? Bah, t'auras perdu l'Argentine. Ça aurait été un échec. Ah, l'Argentine, ils ont gagné plus de choses que toi dans l'histoire.
Clair,
c'est un grand pays de football. C'est la honte de perdre contre eux. Non. Donc, ça veut rien dire, dernier carré.
Par contre, ça veut rien dire.
Et tu vas dans le dernier carré si t'as un bon tirage, t'as battu personne. T'as un bon tirage, t'as un bon huitième, un bon quart.
On l'a vu pour l'Euro.
Bah oui.
En 2010, on avait un bon quart. Vas-y.
On avait un bon quart, mais même au-delà de ça. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est le Lionel Charbonnier qui a dit heureusement, on a de la chance de pas tomber sur un gros. Moi personnellement, je préfère avoir les gros d'entrée. Moi j'ai envie d'être champion du monde, mais j'ai envie d'être champion du monde avec des vraies équipes en face, quoi. Excuse-moi, mais ils ont
peur. Devrait vite arriver les équipes. Dès les huitièmes, ça devrait arriver.
Dès les huitièmes, ça se joue.
Dès les huitièmes,
ça se joue sur un match. Et en général, comme je le dis souvent, moi, c'est comme un petit peu comme la Champions League. Dans les matchs de poule, les gros, ils se préparent. Et arriver dans les matchs décisifs, ben là, tu vois la différence. Et l'équipe de France, je veux pas la voir très bonne, moi, dans les poules. Je veux juste l'avoir gagnée. Mais par contre, être préparé à partir des huitièmes, c'est là que je veux voir surtout le gros de l'équipe de France. Beaucoup plus que de gagner des 3, 4, 5, 0 dans les poules, comme on le voit souvent.
Non, mais c'est ça, mais on les voit déjà avoir peur. Alors attends, on se pose déjà la question.
Oh, c'est de l'humilité.
Il assume le statut de favori, Imad.
C'est l'humilité, ça.
Ah, moi, franchement, je ne l'ai pas entendu. Enfin, l'humilité.
Bah, on vient de l'entendre, il vient de le dire.
Avec toute l'humilité que je peux avoir, enfin, avec tout le respect que je peux avoir pour ces équipes-là, pour le Pérou, s'il te plaît, on n'est pas les Tonga, on est la France. On ne va pas avoir peur.
Les Tonga,
jouer,
c'est rugby, Imad.
Attention, si tu es face à eux, le Tonga, c'est dur à gagner.
C'est pour ça que je te dis ça. On n'a pas à avoir peur du. Enfin, ou même de craindre le Pérou de faire des calculs. Non, on rencontre l'Argentine, on les frappe. On rencontre le Portugal, on les frappe. On rencontre l'Allemagne, on les frappe. On est champion du monde. Stop. On pense que.
Si tu frappes tout le monde, t'es champion du monde.
Eh ben oui, c'est pour ça.
Donc, c'est clair.
Si on veut être champion du monde, le seul adversaire que l'équipe de France peut avoir, c'est l'équipe de France. Moi, honnêtement, j'aurais préféré, sincèrement, j'aurais rêvé, j'aurais aimé être dans le groupe du Portugal ou de l'Espagne, d'avoir un groupe comme ça, juste pour savoir, voilà, pour qu'on soit tout de suite dedans. Parce que si c'est pour être premier de son groupe et après se faire sortir comme un malpropre en huitième de finale et voilà, se contenter de ça, et on va dire, bon, bah, c'est bien, on a quand même perdu peut-être face aux champions du monde, et à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
D'ailleurs, on rappelle que la France, hein, en huitième de finale, si donc elle se qualifie de son groupe, elle jouera donc face au groupe D, le groupe de l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Voilà.
Ouais, c'est pour ça que déjà, dès les huitièmes, de toute façon.
Tu risques d'avoir un bon client, déjà. Ouais.
Tu auras un bon client,
et de toute façon. Argentine ou Croatie, c'est quand même
oui, bizarre, et ça se joue sur un match, encore une fois, et tout peut se passer sur un match. Tu peux pas te rattraper. Alors que dans les poules, même si tu pars le premier, tu peux gagner les deux autres et te qualifier. Donc c'est pour ça que cette équipe de France-là, c'est une bonne chose pour moi, c'est bien. Par contre, je suis pas comme toi, Imad, dans le sens où t'as toujours des trucs à régler, tu peux arriver avec des blessés. Ça te laisse quand même le temps que des joueurs puissent revenir et être à 100%. Ça, c'est une bonne chose en début de tournoi. Et ça permettra peut-être à Deschamps d'avoir ce groupe-là, de pouvoir faire tourner, que tout le monde arrive à 100%, surtout, en huitième de finale.
Ouais, moi, j'y crois pas trop à ça. Honnêtement, j'y crois pas trop à ça. Les gars, pour se préparer, enfin, on va prendre l'hypothèse où beaucoup de joueurs iront très loin en Coupe d'Europe. On va dire, ils seront pas, enfin, on va dire, il y aura pas pléthore de joueurs français en finale d'Europe. Enfin, je l'espère, mais bon, je pense pas, j'y crois pas une seule seconde.
Ils sont tellement éparpillés à droite à gauche que ça va être compliqué qu'il y en ait beaucoup.
Oui, voilà. Non, mais je veux dire,
si c'est Manchester, t'as Pogba, Martial. Si c'est Barça, City. En finale, t'auras Umtiti. Si c'est le Real, t'as que Varane.
Mais on va dire qu'il y en a qui vont arriver en finale de Ligue des Champions. Ok. C'est-à-dire quoi? Tous les autres vont être prêts. On va dire, il y en a quoi? 3-4 grands max peut-être.
Allez, non, mais Imad, personne ne te contredit.
Tout le mois d'avril, ils vont avoir quoi? Tout le mois d'avril, enfin. Tout le mois de mai, pardon, pour se préparer pour aller à la Coupe du Monde. Et nous, pas frais.
Non, mais Imad, n'oublie pas qu'un tournoi, c'est, si tu vas aller au bout, ça dure un mois. Faut pas être prêt et être à 100% complètement dès le début, je le dis souvent.
Oui, tu peux monter en route en plus.
Voilà, tu montes,
et c'est mieux si t'as un groupe facile, tu peux mieux monter en route en plus.
Parce que je l'ai entendu assez souvent, aucune équipe a été super forte du début du tournoi et l'a gagné. C'est toujours une équipe qui est venue progressivement et est montée à partir des huitièmes, voire des quarts de finale même. D'un coup, on l'a vu être très fort en quart de finale, en demi-finale, voire en finale, tu vois. Alors être top et bon dès le début, gagner tout le monde et gagner en même temps la Coupe du Monde, très peu d'équipes l'ont fait.
Merci Imad de nous avoir appelé.
Ouais, ça marche, ok, merci beaucoup.
Bonne soirée Imad, à bientôt, salut.
Merci Imad.
Ciao, ciao Imad. On va accueillir Johan, autre supporter des Bleus qui nous a appelé au 32-16. Salut Johan.
Salut à tous.
Salut Johan.
Bon Johan, est-ce que pour toi aussi c'est le jackpot le groupe de l'équipe de France? Tiens, on a le sondage toujours sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant vous êtes 70% à répondre oui carrément et 31% à répondre non. Attention quand même. T'es dans les 70 ou les 30?
Je suis dans les 30.
Ah ouais, t'as peur toi?
Non, enfin, disons que sur le papier, miraculeusement, encore une fois, on tombe dans une poule extrêmement facile. Mais on a bien vu que contre des petites équipes, on a énormément de difficultés. On l'a vu contre le Luxembourg, on l'a vu. Voilà.
C'est sûr que, vu comme ça, si tu prends le match du Luxembourg en référence, alors là, on ne sort pas du groupe.
On va avoir peur.
Là, c'est sûr, on sort pas du groupe.
Hein. L'Australie est meilleure que
le Luxembourg. Non, on va sortir. Je pense qu'on va sortir parce que ça reste quand même à la portée de la France. Après, faudra voir contre les gros. Contre les gros, on produit pas de jeu. Donc voilà, déjà, voilà, c'est que des contres. Voilà, faudra espérer que cette équipe réussisse à faire quelques contres. En tout cas, voilà, cette équipe, elle est pas enthousiasmante. Elle fait pas rêver. Et même si on sort des poules, ce qui normalement devrait être le cas, moi je pense avec difficulté, mais ça devrait être le cas, Moi, je nous donne pas gagnant face à de grosses équipes, comme l'Allemagne, l'Espagne ou
comme la Croatie.
La Croatie, ça, je pense que la Croatie, je nous vois pas passer face à. Enfin, je pense que ça sera très serré. Parce que la Croatie, c'est quand même une équipe qui, au milieu de terrain, produit un jeu super intéressant. Nous, encore une fois, c'est basé uniquement sur le physique, sur
le physique. Et l'équipe de France, tu la vois physique, toi, par contre.
Bah oui. Bah écoute, c'est quoi au milieu? T'as quoi? T'as des créateurs au milieu, non? T'as Matuidi, t'as Kanté.
Je suis désolé. Kanté, c'est pas physique. C'est très bon. Ça donne des très bons ballons. Ah, si pour toi, la technique, c'est faire des passements de jambes, j'ai jamais fait de passements de jambes, moi.
Mais tu peux pas me comparer.
C'est vrai,
Limerde,
c'est pas les faire.
Je tombe. Je fais des passements de jambes, je tombe.
Ouais, c'est vrai, merde. Alors.
Non, mais j'espère que tu me compares.
Ça te manquait un peu.
Comme Kanté et comme Modric, par exemple, ou Rakitic.
Oui,
pas la même chose.
Bien sûr, mais ça, c'est des super joueurs. Mais l'équipe de France. Je suis désolé. Moi, je trouve cette équipe de France, par contre. Beaucoup plus dans la technique que dans le physique.
Tu prends. Alors je vais changer de terme, la créativité. Voilà, la créativité.
Mais t'as tout ce qui fait. Lemar, Griezmann.
C'est un joueur créatif.
Bah, techniquement, il est pas dégueulasse, Johan.
Ah bah, si Griezmann,
non,
il est pas créatif. Excuse-moi, mais
c'est quoi être créatif pour toi, dis-moi.
Créatif pour moi, c'est Modric, c'est Rakitic, c'est Iniesta. Voilà.
Ouais, c'est croate.
Le numéro 10 relayeur. Qui est capable de changer par une passe le match.
Après techniquement, un Griezmann, il est créatif.
C'est super, je dis pas le contraire.
Il peut te faire un appel aussi qui est créatif, Johan, un Griezmann.
Non,
les gars, Griezmann change un match à lui tout seul. Il me semble pas.
Il y a l'Euro, tu vas en finale, tu peux lui dire merci, mon gars.
C'est quand même arrivé quelques fois, que ce soit à l'Atlético en équipe de France.
Va demander à la Croatie s'ils aimeraient pas avoir Griezmann dans leur équipe pour changer le jeu.
Est-ce que je suis en train de dire le contraire? Je ne dis pas le contraire. Je dis pas que Griezmann est un joueur nul. Je dis que dans cette équipe de France, on n'a pas le joueur qui, à lui tout seul, peut faire changer un match.
Mais attends, dis-moi dans quelle autre équipe.
Messi, Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas d'autres.
Exactement, voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question.
En Espagne, moi, je te cite Isco quand même, qui est quand même.
Tu en veux parler d'Isco maintenant.
Attendez, les gars, on est loin, Isco, on est loin.
Il vient de commencer, Isco, à peine. Il a fait une saison de bonne.
T'as Neymar aussi.
En Allemagne, t'as quand même aussi des joueurs qui sont capables, qui ont prouvé, qui pouvaient, voilà, changer. Là, Griezmann.
C'est pour ça que t'es outsider et pas favori.
Complètement. Et dis-moi une chose. Si en attaque, d'un coup, t'as. Au milieu, je te parle, Dembélé, Griezmann, Lemar, et t'as, admettons, Giroud ou Mbappé ou ce que tu veux. T'as pas de quoi casser les lignes avec Lemar, Dembélé et Griezmann.
Non mais attends, d'accord, encore une fois, ce sont des joueurs qui...
Bon, tu veux un 10 et il n'y a pas de 10 en équipe de France, ok, c'est vrai.
Il n'y a pas de 10.
Enfin, si t'as Dimitri Payet, tu veux Payet ou pas?
Voilà. Non mais sois sérieux, Daniel, pas toi.
Payet, c'est un 10.
Non, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait.
Non. Je veux un joueur à la Zidane, à la Iniesta.
Oui, mais il y en a pas. Il y en a pas dans le football français. Ouais, voilà. C'est ce que je te dis.
Maintenant, il y en a de moins en moins.
Donc, on est d'accord que notre équipe de France, c'est pas un jeu flamboyant. C'est pas un jeu.
Ouais, mais tu peux gagner. Non, mais ça, tout le monde le sait depuis longtemps. Mais tu peux gagner autrement.
L'Allemagne est très forte. Dis-moi, l'Allemagne est très forte. Est-ce qu'elle a un numéro 10?
Si, Ozil.
Attends.
Elle a un numéro 10 et elle a un joueur comme Kroos qui est un 8.
C'est pas un 10.
Qui est un 8. Qui est un 8
non,
et
mais
Draxler,
c'est supérieur
d'ailleurs.
À ce Ozil quand il va. Alors, le Ozil qui veut, le Ozil qui est dans un match et tout, c'est un joueur d'exception.
T'as Kedira, t'as Kroos, t'as Ozil, t'as Draxler.
Gars, non, c'est des bombes de terrain, mais est-ce que c'est des numéros 10? Mais est-ce que c'est des numéros 10? Non. Mais oublie le numéro 10, t'en as pratiquement pas.
Lui, il veut un mec qui caresse le ballon un peu comme tu faisais. Tu prends le ballon et tu lui fais des câlins.
Il n'y a plus la place, là.
Dans notre foot, on n'en a pas. Ok, mais ça t'empêche pas de gagner quand même. Tu peux gagner autrement.
Je dis pas le contraire, mais c'est ce que j'ai dit justement au début. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est basée sur le physique, sur l'explosivité. Voilà, mais on pourrait avoir un jeu qui soit différent, qui soit un peu plus flamboyant. Malheureusement, avec l'entraîneur qu'on a, c'est pas le cas. Et donc, je ne nous vois pas favori.
Non. Mais moi, je mets pas l'équipe de France favori pour la simple raison. Pour la simple raison qu'elle n'a pas l'expérience des grands tournois. On n'a pas la mentalité. Et par contre, beaucoup plus qu'un meneur de jeu, ce qui nous manque à cette équipe de France, c'est des joueurs leaders dans leur club et que tu n'as pas l'équipe de France si ça se passe mal.
Johan, passons aux choses sérieuses. T'es supporter de quelle équipe, Johan?
Le Barça.
Et en France?
En France. Bah écoute.
Martigues.
Disons que Bielsa m'a donné espoir et donc je suivais Lille parce que j'adore le jeu que Bielsa
insuffle
à ses équipes. Ouais, mais écoute, j'aurais espéré mieux, mais en France, j'ai pas vraiment de...
Eh ben, on va quand même te faire un cadeau, Johan, parce que t'as été bon. Une réplique 3D de stade, voilà, un puzzle 3D pour réaliser le stade, ton stade préféré, de club préféré. Voilà, c'est pas mal, non?
Super, c'est
voilà,
sympa.
Voilà, un cadeau de Noël, mon pote.
Et un billet pour aller voir jouer Rodez.
Pour aller voir jouer qui?
Rodez.
Rodez, super.
Attends.
Rodez, Aviron Football.
Les Ruthénois.
Exactement.
Ah ouais, d'accord.
Salut Johan, bonne soirée.
Salut.
À bientôt.
Salut Johan.
Nous reviendrons dans quelques instants. On va continuer, bien entendu, de dégrainer ces groupes de la Coupe du Monde. On rappelle que la France est dans le groupe de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Trois équipes qui avaient été barragistes en phase de qualification. Voilà, on a le Portugal qui est dans le groupe de l'Espagne, du Maroc et de l'Iran. On a l'Argentine qui est avec la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Le Brésil avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et puis l'Allemagne avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Vous aussi, appelez-nous au 3216. Venez refaire les groupes avec nous. On va même vous faire gagner les cadeaux dans quelques instants. A tout de suite pour la suite de la soirée.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Nous sommes avec Ali Benarbia, avec Daniel Riolo et dans quelques instants, nous allons accueillir nos drôles de dames. Juste vous rappelle le premier résultat de la 16e journée de Ligue 1. Dijon a battu Bordeaux 3-2, oui. Et cet après-midi, il y avait le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2018. Ce sera dans un peu moins de 200 jours maintenant en Russie. Le groupe A, avec le pays organisateur, la Russie, qui est avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Le groupe B, groupe de la mort, tiens ou pas. Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Groupe C, la France. France, Australie, Pérou, Danemark, groupe D, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Le groupe E, Brasil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Groupe F, l'Allemagne, le Mexique, la Suède, la Corée du Sud. Groupe G, la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Et le groupe H, la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. On vient de parler du groupe de la France, donc le groupe du jackpot, le groupe C, avec trois équipes qui étaient barragistes. On va passer au groupe B dans quelques instants. Mais avant, accueillons nos drôles de dames. David Lortolari est avec nous. Salut David.
Allô Freund, salut messieurs, salut
David. Déjà en huitième.
Ça, c'est fait.
Bon, ça, c'est normal.
Quoi. Déjà en huitième.
Huitième pour l'Allemagne, c'est les
plus. Fred Hermel est avec nous.
À vaincre sans péril, on triomphe.
On va pas être potes pendant quelques mois, toi et moi, là, je te le dis, mon gars.
Fred Hermel, déjà en huitième.
Salut Fred, oh ça va se jouer avec un Espagne-Russie. Oh,
ça va se jouer entre voisins. Hein,
et il est avec nous en plateau, alors sur BFM Sport et sur Facebook Live également. Simone Rovera, qu'est-ce que tu fous là?
T'as raison.
Le Barbac.
Ciao.
Il est parti.
Il va nous parler quand même de cette affiche qu'il y avait en Serie A ce soir, le match entre la Juve et la. Tu l'as regardé le tirage au sort quand même ou pas?
T'as regardé ça là? Alors je peux dire que j'ai regardé BFM TV avec Daniel, Mohamed et tous les autres.
Tu vas supporter qui pendant la Coupe du Monde?
Non, mais ça se passe sur Rochelle. On doit choisir l'équipe. On est en ballotage entre Suisse et Croatie.
Ah ouais, c'est pourquoi?
Bah, parce que l'After me donne une équipe à suivre, parce qu'au moins je participe avec vous à la Coupe du Monde.
C'est bon ça.
Et ça se peut que l'Italie soit repêchée ou pas?
Ah non, c'est mort, le Pérou est là.
Ah, le Pérou, il y avait un doute avec le Pérou.
Ouais, mais non, c'est bon,
c'est un petit espoir.
C'est mort l'enquête. Il n'y a pas moyen de leur mettre une valise de coke dans la chambre d'hôtel. Je sais pas, un truc dans le genre.
Mais avec les valises, nous, on sait faire.
Pas
donc,
les Péruviens, non. Pas les Péruviens.
Mais c'était quoi l'histoire de la sanction éventuelle?
En fait, c'était ingérence politique. Mais
exactement.
Finalement, ça,
projet de loi.
C'est-à-dire, le gouvernement voulait prendre la main sur la Fédé.
Oh voilà. Putain.
Ça
n'a pas été sanctionné. Oh le scandale.
Alors que nous, en France, on est complètement neutre.
C'est dingue.
Vu que le DTN n'est pas du tout nommé par le ministère.
Comment il s'appelle le président péruvien?
Chico de la Plate. Il a un nom japonais, je crois, non? C'est encore lui ou pas?
Ouais, Pérou.
Non, Fujimori, il est en prison.
Il est plus là-bas, il est en prison. Il est passé par la case départ. Bon, Fredo, on va commencer par toi. On va commencer par nous.
Ça, c'est fini.
On va débuter par le groupe B. Pas en même temps, les mecs. Le groupe B, le groupe du Portugal, de l'Espagne, du Maroc et de l'Iran. Fredo, qu'est-ce qu'on en dit en Espagne?
Que c'est très attractif. Que c'est très excitant, qu'il y aura plein d'histoires.
C'est pas ici, mais que c'est bouclé.
Mais que c'est un groupe très dur et que les croisements après sont très compliqués, quoi. Voilà, les huitièmes, les quarts, tout ça.
Ah bon, t'es en huitième, tu le croises avec la Russie, en quoi c'est compliqué?
Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Hein.
Ah, mais contre, bah, justement, contre. Mais après, le quart, ça peut être, je sais plus qui, l'Allemagne déjà, je pense. Non, enfin. Mais bon, c'est un groupe compliqué pour l'Espagne. C'est un groupe compliqué pour l'Espagne, mais.
Ah, disons que si c'est un groupe compliqué pour l'Espagne.
Bah, le Portugal, le Maroc, et puis l'Iran qui est toujours, enfin qui est inconnu quoi. Donc, mais le Maroc, attention le Maroc. Hein. Alors ce qu'il y a de bien, enfin en tout cas, c'est, on va savoir le 15 juin.
Espagne Maroc,
en fait.
C'est 3 buts d'écart minimum.
Ouais, bah déjà le 15 juin, on va savoir parce que c'est Portugal Espagne.
Ouais, ça commence par l'affiche.
Malheureux vaincu.
Ouais. Celui-là, vraiment, en revanche, il sera très fermé. Parce que je pense que les Portugais boucleront la rencontre.
Oh, c'est pas leur genre, non.
Non, je pense qu'ils vont bien essayer de le boucler.
C'est pas leur genre.
Ils vont mettre un tour de clé.
Alors, c'est pas étonnant, proximité géographique, voire politique, fut un temps entre les deux pays. L'Espagne est la nation que le Portugal a le plus affronté. Il y a eu une confrontation seulement en Coupe du Monde. C'était en 2010, et je peux te dire, Fredo, ils l'ont en travers de la gorge. Fameux but de Villa, tu sais, en hors-jeu, là.
Ouais, bien sûr.
Ouais, bah, ils sont vénères.
Il y a 2012, ça se joue au Péno.
Alors,
en 2012.
Nico, tu sais ça mieux que moi. Il y a un rapport très compliqué entre l'Espagne et le Portugal. Ouais. C'est au-delà.
Bah, les Espagnols prennent un peu les Portugais pour des sous-fifres.
Exactement. Les Espagnols font aux Portugais ce qu'ils reprochent, ce que nous faisons, nous, les Français. En tout cas, les Portugais ont le sentiment d'être maltraités par
les... prennent plus les Espagnols pour des sous-fifres.
Dans la mémoire populaire, quoi. Les Portugais, t'es d'accord, Nico, considèrent que les Espagnols les exploitent un petit peu, parce que tu vois, il y a plein de banques espagnoles au Portugal, t'as plein de grosses entreprises espagnoles au Portugal, etc. Donc voilà, c'est toujours
depuis
très
les ex-colonies ont pris le relais.
Ouais, mais bon, c'est toujours un peu tendu quand même.
Non, mais ça l'est, c'est vrai. Il y a un complexe d'infériorité, ça, c'est clair.
Et le Maroc, c'est le voisin.
Un complexe d'infériorité par rapport à...
Non, mais les Portugais, historiquement, c'est ce que dit Fredo. Il y a un truc quand même.
Et le Maroc, il faut pas oublier que d'un point de vue géopolitique, il y a deux enclaves espagnoles qui sont des provinces espagnoles, les villes communautés, Ceuta et Melilla, qui sont sur le territoire marocain. Donc
les
Amouris
de Ceuta, c'est à moitié, c'est les Amouris du
Portugal. Est-ce que tu as déjà eu envie de gifler Fred Hermel?
Non, pourquoi?
Bah, pour ça, quoi.
Non, pas du tout.
Pour son côté espagnol un peu trop arrogant.
Mais tu sais, moi je le laisse parler.
Il te faut des complexes.
Ouais, non, moi je laisse parler. Tu vois,
donc il a un côté espagnol, Fred, alors?
Ah, bah quand même.
Non, moi je reste très français.
Ça fait 30 ans qu'il est là-bas.
Non, mais moi j'observe tout ça et c'est vrai que non, mais j'insiste là-dessus, les Portugais quand ils jouent contre les Espagnols, il y a toujours un petit peu plus de motivation.
Ah bah c'est
pareil,
normal.
Quand les Espagnols jouent contre les Français.
Et dis-moi, Fred,
à cause de ce contexte culturel
et les Marocains aussi avec les Espagnols.
Ah bah,
bien sûr,
ben oui, et puis un million de Marocains. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est tu as tout à fait raison.
Hein. Le Maroc en 86 était devenu la première nation africaine à passer la phase de groupe et ils avaient battu le Portugal 3-1 d'ailleurs.
Exactement.
C'était le Nice portugais. On en avait parlé.
Un Portugal qui n'était pas en grande forme à l'époque.
Mais qui était l'une des plus belles générations. Ça faisait 20 ans qu'ils n'allaient pas au mondial avec Paulo Fouf.
Mais l'équipe du Maroc avait des très bons joueurs.
Bien sûr.
Il y en a là aussi. Ils sont beaucoup en Espagne d'ailleurs.
Il y était allé après d'ailleurs.
le gardien marocain, c'est le gardien de Numancia en deuxième division. Tu as la jeune perle du football marocain, Achraf Hakimi, qui joue au Real, hein, qui est la doublure de Carvajal et qui joue beaucoup.
Il est avec l'équipe nationale du Portugal, Achraf?
Non,
Du Maroc, je veux dire.
Oui, il est né à Madrid, de parents marocains, mais il jouait avec le Maroc, il a la double nationalité.
Lui est très bon.
Bah, alors, en Maroc, il y en a un autre. Vous vous souvenez de Manu da Costa qui a joué à Nancy, qui était à West Ham? Vous vous souvenez pas de ce joueur? Il joue à Başakşehir maintenant. Tu te souviens pas?
Non.
Il a gagné la Coupe de la Ligue avec Nancy il y a quelques années. Il a été international U20 français, international espoir portugais, et maintenant il est international A marocain. C'est quand même énorme. Et là, il joue en Turquie maintenant, voilà.
Et là, il va être international turc.
Mais vous savez qu'il y a une histoire par rapport à cette Coupe du Monde. Il y a Del Bosque qui a avoué il y a quelques heures qu'il regrettait d'avoir convoqué pour une fois Mounir El Haddadi. Vous savez qu'il était au Barça, qu'il était formé au Barça.
Oui, exactement.
Parce que à l'époque, c'était le petit joueur à la mode. Il l'avait vite convoqué pour pas que les Marocains le prennent. Et finalement, il n'a jamais été rappelé depuis. Et là, il y a un petit espoir qu'il puisse encore jouer avec le Maroc. Enfin, c'est compliqué. Il y a des recours, etc. Mais même Del Bosque.
Il a joué combien de matchs?
Un match.
Mais il est rentré sur le terrain.
Ouais, non, mais là, normalement, suivant les règles habituelles, il peut pas. Mais a priori, ça pourrait peut-être évoluer, etc. D'ici là, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent du côté de l'entourage du joueur et puis du Maroc aussi. Mais...
Tiens, Fredo, tout à l'heure, on écoutait Didier Deschamps, alors qui a quand même avoué qu'il était dans un groupe facile. On le rappelle, la France avec l'Australie, le Pérou et le Danemark. Lopetegui, il a dit quoi, lui, quand il a vu le tirage au sort?
Dur, difficile, compliqué. Les trois mots qu'il a employés.
Ah ouais, d'accord.
explosif.
Donc lui, il voulait un groupe avec Japon, Australie, Arabie Saoudite, en gros.
Non, mais attends, il pose la question.
Un peu plus tranquille.
Excuse-moi, attends. Et t'as le Maroc, t'as le Portugal qui est même champion d'Europe en titre, et t'as l'Iran qui est une inconnue. Bah, tu dis, bah oui, ça aurait été
un peu plus facile, quoi.
Mais non, elle tremble pas.
Ça sert à quoi d'avoir la meilleure Liga du monde si t'as peur dans ce groupe.
Mais t'as pas peur. Mais il y en a qui ont de la chatte. Demande
à Tebas. Tebas, il a pas peur, lui.
Mais non, il a pas peur, Tebas. Il a pas peur. Puis après, on va beaucoup parler de Cristiano. Mais de toute façon, déjà, je vois la une de AS Marca le 15 juin prochain.
Vas-y.
Le capitaine de la sélection espagnole, Sergio Ramos, en photo. Et devant lui, le capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo.
Qu'est-ce qu'on va leur mettre, putain?
C'est le 15 juin, le match?
Ouais! Mais c'est pas le jour, c'est pas le match d'ouverture, le 15?
Non, c'est le lendemain.
Non, c'est le 14.
Ouais, 14 juin.
Ce match-là.
Le 14 juin, match d'ouverture.
Ah, match d'ouverture,
et la finale,
le 14.
14 juillet.
Non, 15 juillet. La finale, c'est 15 ou 14
juin. Le 15 juin.
14 juillet.
15 juin à Sochi, Portugal. Il y aura Maroc-Iran juste avant,
c'est
à Saint-Pétersbourg.
C'est un samedi,
le Maroc peut tirer son épingle du jeu dans cette histoire à cause du calendrier. Regardez bien le calendrier. Le premier match, c'est Espagne-Portugal. Imaginez que l'Espagne bat le Portugal. Le Maroc aura joué l'Iran. En fait, il y a deux matchs essentiels. Le Maroc a absolument besoin de battre l'Iran pour espérer faire un truc. Et après, malheur au vaincu entre l'Espagne et le Maroc. Donc imaginez que l'Espagne bat le Portugal, le Portugal, et que le Maroc puisse logiquement battre l'Iran. Et ben, vous avez le Portugal en deuxième match contre le Maroc, qui aurait 0 points, alors que les deux autres ont trois points. Enfin, qui pourrait jouer son avenir uniquement déjà sur le deuxième match, quoi. Il y a une pression de folie, hein, pour le calendrier est vachement important aussi à ce niveau-là.
De toute façon, pendant les Coupes du Monde, Fred, le premier match est le plus important. Déjà. Sincèrement,
l'ordre des matchs est très important.
Les huitièmes déjà tout à l'heure.
Oui.
Bien sûr, je vois les huitièmes.
Il est
en train de se faire son film.
Quand il
est
dessus,
à nous vendre un suspense.
On a tous fait notre propre film, Daniel.
C'est vrai que le dernier match Espagne-Maroc, si l'Espagne a déjà 6 points, peut-être qu'il ne va pas mettre l'équipe de la vie face au Maroc et peut-être qu'il peut avoir un enjeu.
Je ne savais pas que vous envisagiez aussi les magouilles.
Mais ce n'est pas des magouilles, c'est que l'ordre des matchs. Mais tu fais tourner le troisième match, si t'es déjà qualifié, t'es sûr d'être premier, automatiquement.
Et l'Espagne, quand ils font tourner avec qui? Avec Asensio? Avec qui?
Dis-moi
avec qui vont faire tourner pour me faire peur un peu là.
Alcacer.
Non mais continue la vente d'une Espagne qui a peur.
Fais pas celui qui comprend pas ce que je veux dire. Si
l'Espagne a peur, tous les pays ont peur.
L'Espagne a peur, oui, l'Espagne peut faire peur au Portugal.
Le Portugal, c'est terrible. L'ordre des matchs, c'est pas bon pour le Portugal.
Ok. On va passer en Allemagne. Mais avant, on va faire une petite escale par l'Angleterre. Philippe Auclair nous a rejoint. Salut Philippe.
Salut Nico.
On va faire un petit tour dans le groupe F. Voilà. Bouge pas. On va faire un petit tour dans le groupe F. Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. David Lortolari. Comment ce tirage au sort a été perçu en Allemagne?
Déjà en quart, lui.
Il y a eu deux moments. Parce que la première perception, c'est de se dire quand même que ce sont des adversaires plutôt coriace, c'est pas un groupe forcément très simple, ça ne sera pas une promenade de santé. Non, alors attention, la Suède, je vous rappelle le dernier match entre l'Allemagne et la Suède, qualificatif pour la Coupe du Monde en 2014, 4-0, 4 partout finalement. Donc c'est un très mauvais souvenir pour les Allemands, qu'ils ont encore en travers de la gorge.
Même pour les Italiens, la Suède, c'est un mauvais souvenir.
Ah ouais, j'avais oublié ça. Les barrages,
pour
ça.
La France, je t'assure.
T'es là, Simone ? Ouais, vas-y, David.
C'est un groupe dans lequel, alors il y a le Mexique aussi, certes, dans la dernière Coupe des Confédérations, l'Allemagne a gentiment balayé le Mexique 4-1, je crois.
Avec l'équipe bis.
Avec une équipe B prime, même. Et la Corée du Sud, certes.
Il faut se méfier de la Corée du Sud, attention.
Attends, il y a Bonne à Dijon, il y a Souk à 3.
Bon, l'Allemagne, c'est très compliqué, rappelons-nous, ça a fait une demi-finale de Coupe du Monde, Allemagne-Corée du Sud.
La Corée du Sud, c'est le seul.
C'est compliqué.
Oui, c'est un adversaire, c'est la seule petite inconnue, on va dire. Et après quand on a dit ça.
C'est pas la Corée du Nord?
Quand on a dit cela, messieurs, on regarde un peu le tableau pour l'Allemagne, et là, c'est plutôt favorable, parce qu'on ne peut rencontrer l'Espagne, la France, ou l'Argentine, qu'en finale.
Oh les mecs, vous êtes bien.
Si, non, l'Espagne, tu peux.
En demi. Et le Brésil seulement en finale, si je me souviens bien.
Une personne.
Donc, d'un point de vue analytique sur la deuxième...
Le Brésil, tu peux les rencontrer en huitième. Hein.
Et oui, et dans quel cas?
S'il termine deuxième,
bah, deuxième et l'autre il finit premier.
Ah bah ouais. Oui, mais vous arrêtez pas tous de nous vanter le Brésil comme favori, donc on va pas commencer à dire
qu'il
est
la huitième.
Pas pour la huitième. Vas-y, on te laisse pas faire. Mais ouais. Pour leur, bah, tu vois, parce que t'as t'écoutes. Tu vois, le truc c'est que ils se rendent pas compte. Nous on les écoute avant d'intervenir.
Bah oui,
on se souvient de leur truc.
On se branche et on écoute. Non, alors quand même. C'est vrai que dans les confrontations directes. Le Mexique a rencontré l'Allemagne 11 fois, n'a gagné que une fois. La dernière victoire suédoise contre l'Allemagne remonte à 1988.
Oh, ça va.
Et la Corée du Sud n'est plus la Corée du début des années 2000.
Je commençais vraiment à avoir peur là. C'était un peu en panique pour l'Allemagne.
Alors le premier match de l'Allemagne, ce sera le 17 juin à Moscou face au Mexique. Ça commence par contre par, on va dire, les deux favoris quoi.
Oui, alors après, c'est vrai que Birof, le directeur sportif de cette équipe, aime bien peaufiner un peu les détails. Et par exemple, les Allemands avaient, conformément à ce qu'ils avaient réussi en 2014, avaient essayé de se déplacer le moins possible sur un territoire aussi grand que celui de la Russie. Donc il était très question avant le tirage de savoir où est-ce qu'on allait s'installer. On voulait s'installer à Sotchi, dans le sud de la Russie, pour être un peu confort, etc. Donc tous ces détails sont envisagés aussi parce que...
Ça, les Allemands, je crois que c'est les plus forts.
Ben oui, en fait, il faut pas sous-estimer ce qui a été annoncé dès la suite de la Coupe du Monde précédente, c'est que l'Allemagne prend très au sérieux sa volonté de défendre son titre. C'est très très rare, c'est très très rare comme performance, ça, pour pas dire que ça n'arrive jamais. Et les Allemands veulent mettre tout de leur côté pour réussir cette performance-là. Donc il y a le tirage qui est une chose, puis après il y a aussi effectivement tous les détails logistiques pour lesquels tu as raison, Ali. Un gars comme Oliver Birof est absolument incomparable.
Alors maintenant qu'on a eu peur avec Fred Hermel pour l'Espagne et quand même un petit peu aussi pour l'Allemagne avec David, vu ses groupes, moi je pense que Philippe Auclair va nous annoncer que l'Angleterre
c'est
mort.
Ce sera dans quelques instants.
Ils ne sortent pas du groupe.
Ce sera dans quelques instants.
Vous si les deux autres ont eu peur,
cher de
l'Angleterre
drôle de
qui
dame.
A pas trop de sachez référence. Juste, mon Dieu.
Oh, sachez
mon Dieu.
Juste qu'aujourd'hui, grâce à RMC, on vous offre l'occasion de gagner une expérience incroyable. Votre e-coffret dose d'adrénaline. Vous pourrez vous essayer à la chute libre, à la conduite sur circuit ou encore au saut en parachute. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7-32-16. À vous de jouer.
Il n'y a pas la sensation extrême, avoir peur de l'Iran avec Fred Hermel.
Juste après ça.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Ali Benarbia et nos drôles de dames. On est avec Fred Hermel qui, pour la Coupe du Monde, est dans le groupe de l'Espagne, du Maroc, de l'Iran et du Portugal. On est avec David Ortolari, l'Allemagne, qui est avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Allons rejoindre Philippe Auclair.
Oh là là.
Oh Philippe. Oh mon filou, qui est dans le groupe G avec la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Tiens, David faisait allusion il y a quelques instants au kilomètre, au parcours. Alors ce groupe G, c'est le groupe dans lequel les équipes voyageront le plus dans cette phase de poule.
Volgograd.
5000 kilomètres.
Ouais, je regarde l'équipe d'Angleterre. C'est Tunisie, Volgograd le 18 juin, Nijni Novgorod le 24 juin, mon anniversaire, et Kaliningrad le 28. Voilà. Donc,
5032
je partage l'anniversaire de Léo Messi.
Le 24 juin, ton anniversaire ?
Oui, comme Léo Messi.
C'est normal. Il y avait Platini, Zidane, Tigana, Philippe Auclair.
Ouais, on est tous des cancers du mois de juin.
Et 24 juin pour Messi, je savais pas.
Eh oui, absolument. Voilà. Mais écoute, le tirage est excellent. Hein, on va pas se... Voilà, allons-y.
21, 22, 23 et disons-le.
Je vois, je découvre à l'instant les premières pages des suppléments sportifs anglais. J'aime beaucoup celui du Guardian, qui est simple, mais qui dit « mission possible ». Et l'Angleterre a de la chance, mais Southgate dit d'être prudent. Mais bon, ça c'est normal qu'il ait ce discours-là, bien évidemment. Mais bon, mission possible pour moi.
Et même
ça,
pour ton croisement avec le huitième, c'est pas mal, non, quand même.
Écoute, ça dépend. Bien évidemment, ça dépend sur la comète. Hein. Apparemment, au huitième, si
y a
jamais.
Pire croisement, hein.
Oui, apparemment, c'est soit la Colombie, soit la Pologne, si les choses se passent à peu près normalement. Pologne, si jamais l'Angleterre finissait secondaire, la Belgique, ce qui est la façon dont les gens voient les choses déjà ici en Angleterre. Colombie, si jamais elle terminait elle était victorieuse. Après, ça se complique, parce que ça serait, encore une fois, si la logique était respectée, soit l'Allemagne, Espagne, Brésil... si jamais ils sont second de leur groupe.
Un quart de finale Allemagne-Angleterre, je mets un billet pour le voir.
Ça, ok, et sinon
toujours,
ça serait Brésil-France.
C'est quelque chose de croustillant, Allemagne-Angleterre.
Absolument. Ouais. Mais donc, bon, il y a d'autres choses qui sont en faveur de cette équipe d'Angleterre. Bon, d'une part, bien évidemment, sans vouloir faire manquer de respect à l'équipe du Panama qui a accompli un exploit en se qualifiant pour sa première Coupe du Monde, c'est pas franchement l'une des équipes les plus dures à affronter. On peut également penser que si jamais les choses se passent à peu près normalement, contre la Tunisie, ça devrait passer comme c'était passé en 1998. Toutes mes excuses à nos amis tunisiens qui écoutent, mais a priori, oui, ça devrait le faire. Ce qui signifie que le match, le crunch contre la Belgique, donc le 28 juin, serait une occasion où on aurait deux équipes qui, a priori, seraient... bien placé. Mais bon, tout ça, c'est des plans sur la comète. Ce qui compte plus, c'est le fait, par exemple... l'objectif, c'est... Après ce tirage au sort, je pense que tu regardes les quarts de finale. Ça me paraît logique. C'est d'ailleurs reflété dans la façon dont les codes des bookmakers ont changé énormément, parce que l'Angleterre faisait vraiment pas partie des favoris, n'en fait toujours pas partie d'ailleurs, hein. Les codes ont changé beaucoup, je peux vous les donner maintenant, hein. C'est l'Allemagne favorite avec le Brésil à 5-1, la France juste derrière, et puis ensuite l'Espagne, l'Argentine, ce qui me paraît très généreux, la Belgique, ce qui me paraît normal, et ensuite l'Angleterre devant la Colombie, le Portugal et la Croatie. Et l'Angleterre est à 16-1, donc autant dire qu'on ne se fait pas d'illusions ou qu'on s'imagine pas qu'on va revenir avec le premier titre mondial chez les seniors depuis 1966, mais qu'on se dit que bon, bah, y a une chance de figurer parmi les 8 meilleures équipes du monde, ce qui serait déjà absolument formidable. Y a une chose qui va plaider pour moi en faveur de l'Angleterre, qui est le fait qu'ils ont 6 jours de repos entre leur premier et deuxième match. C'est énorme et c'est un énorme avantage dans cette phase de groupe où on sait que les efforts répétés, surtout à la fin d'une saison comme celle de Première Ligue, où en plus les clubs anglais ont de bonnes chances d'aller assez loin en Ligue des Champions, ce type de moment, ces phases de récupération seront absolument cruciales pendant le Mondial. Et de ce côté-là, ils ont été plutôt vernis par le tirage au sort, comme ils l'avaient été pour le nom de leurs adversaires.
Accueillons Reda Alali, qui est journaliste au Maroc, qui est avec nous également dans l'after. Salut Reda.
Salut à vous les amis.
Comment ça va Reda?
Ça va très bien, ça va super bien.
Alors on en dit quoi du tirage au Maroc, Reda?
Ben, on en dit que c'est quand même un coup sur la tête, parce que tout le monde voulait éviter l'Espagne qui se trouvait dans ce chapeau 2. On se demande un peu pourquoi, et puis voilà, on a tiré l'Espagne. Bon, c'est très très dur, mais en même temps, bon, c'est un beau défi, disons. Mais globalement, c'est quand même une mauvaise nouvelle, quoi.
Ouais, on rappelle, hein, le Maroc est dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Quelle nation africaine pour toi a le plus de chances, on va dire, d'aller loin dans cette Coupe du Monde?
Oh, l'Égypte.
L'Égypte est forte, le Sénégal est bien aussi. Bon, il y a des individualités. Il faut s'attendre à des équipes qui vont avoir une autre configuration que celle qu'on a vue dans les éliminatoires. C'est par expérience ce qu'on a l'habitude de voir dans les phases finales est très loin de ce qu'on voit dans les phases éliminatoires. Donc ça peut être l'Égypte, ça peut être l'Espagne, ça peut être le Sénégal. Bon, après, pour rester sur le Maroc, une surprise est possible. Hein. Vous savez, on va tous espérer au Maroc que le Real, le Barça se tirent la bourre jusqu'en fin de Ligue des Champions, que toutes ces stars arrivent un petit peu fatiguées. On a la chance de commencer par l'Iran, donc déjà, il va falloir commencer correctement. Voilà l'état d'esprit un petit peu.
Ok. Alors on rappelle, hein, l'Égypte qui est dans le groupe de la Russie, de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay. Le Maroc, on l'a dit. Le Nigeria qui est avec la Croatie, l'Islande et l'Argentine. Le Sénégal avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Et la Tunisie qui est avec le Panama, la Belgique et l'Angleterre. C'est vrai que sur le papier, on a l'impression que c'est quand même l'Égypte qui est la nation africaine qui a le plus de chances de créer un exploit, quoi.
Ah, moi, je mets le Sénégal, moi.
Le Sénégal aussi, ouais.
C'est vrai, si je dois dire un pays africain qui va.
Ouais, et alors, moi je vois le Nigeria faire un coup, mais bon, ça.
Non,
c'est...
alors pour l'Égypte, le seul truc, c'est que je peux être d'accord, mais c'est le problème, c'est la Russie.
À domicile.
S'il n'y a pas à un moment un coup de sifflet de travers, c'est déjà que le pays organisateur, comme par hasard, s'est encore retrouvé dans un groupe quand même méga facile, quoi.
Bah oui, bah à ton avis.
Si derrière on fait pas en sorte que bon Uruguay termine premier de ce groupe-là et que derrière la Russie s'en tire pour être au moins en 8e. Après, je veux pas donner l'impression de hein, mais
bon. Reda.
Mais sinon, attention, si c'était clean et si c'était pas le pays organisateur, je dirais Égypte.
Reda, vas-y.
Ouais, non, juste un petit mot entre le Sénégal et l'Égypte, avec leurs deux stars de Liverpool, là, Mané au Sénégal et Mohamed Salah en Égypte. L'Égypte collectivement est plus forte. Hein. L'Égypte est très très gros bloc. Qui va être très difficile à bouger. Le Sénégal, c'est un peu plus fantasque. Il y a beaucoup de talent, donc c'est pas très bien à quoi s'attendre. Voilà, juste pour vous faire un petit topo sur ce qu'on a vu dans les éliminatoires.
Merci beaucoup Reda pour.
Non mais je le voyais comme ça aussi. Le Sénégal.
Bientôt, Reda.
Je disais que dans un Colombie-Sénégal, ça pouvait s'ouvrir un peu.
Salut Reda. Merci d'avoir été. Ciao, Reda.
Non, moi, je pense que l'Égypte est capable de pouvoir se qualifier pour les huitièmes.
Et Russie qui reste à quai en phase de poule.
On attendra.
Mais si, c'est totalement possible. L'équipe de Russie, si vous l'avez vu jouer récemment, connaissez l'état un petit peu du football russe en ce moment,
c'est rare pour mettre un coup de pied aux fesses au pays organisateur.
L'Afrique du Sud,
peu importe. Non, mais l'Afrique du Sud, après, il y a des cas extrêmes. Que l'Afrique du Sud ne sorte pas. Bon, même si tu leur mets un coup de pied aux fesses, c'était un peu compliqué de les faire sortir.
Là, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la médiocrité de cette équipe de Russie.
Si. Non, mais j'espère me tromper. J'ai pas envie de voir un faux péno tomber. Quoi.
Messieurs, Simone Rovera est également avec nous. Ça a voté. Et toi, ta Coupe du Monde, elle se joue ce soir. C'était l'affiche entre le Napoli et la Juve.
Ah, c'était le match de la soirée. Dans tout le monde, on regardait que ça, non?
Non, il y avait Classico sur SFR Sport. Il y avait Porto Benfica.
Sauf ceux qui regardaient Porto Benfica.
Voilà, forcément. Alors, victoire de la Juve 1-0 avec un but d'Higuain à Naples. Et le championnat est relancé. Ils sont à un point, du coup, des Napolitains, là, les Juventus.
Le championnat est relancé. Et je pense que ce soir, on peut voir changer les favoris pour les titres. Déjà, pour les bookmakers italiens, ça a changé ce soir. C'était Naples favori, après ce soir c'est la Juve, mais c'est vrai que la Juve a fait le match parfait pour détruire psychologiquement Naples, un match solide, très solide, un but très rapide après 13 minutes en contre. Naples qui cherchait de faire le jeu, mais pas à la même vitesse que d'habitude. Il était beaucoup la Juventus arrivait à empêcher les lignes de passe, il trouvait pas la solution. Et le but d'Higuain a fait énormément de mal. Après, on a vu beaucoup de joueurs de Naples qui étaient nerveux sur le terrain. Mertens, Insigne, qui
quand même étaient les meilleurs. Ils n'arrivent pas à rester calme contre la Juve, c'est dans la tête.
Parce que c'est l'adversaire qui fait un peu mal. C'est une Naples qui arrive à faire des grands coups. Cette année, il avait gagné déjà à Roma face à la Lazio, face à la Roma. Mais la Juve, c'est toujours l'adversaire différent.
La Juve, c'est au-dessus. C'est contre les gros, ils ont du mal, Naples.
Et on avait l'impression, à certains moments, si les jeux de Naples, c'est la vitesse, c'était un peu la scène finale de Matrix. Non, tu peux lire les coups. La Juve pouvait lire la vitesse des coups de Naples et la révéler à empêcher. Donc, c'était.
Elle est belle ton image.
C'était belle ton image.
Ouais, j'adore.
Ah ouais, toi. Ouais. Et la Nio, c'était la Juve.
Non, mais quand tu regardes le but que marque Higuain, je crois que c'est Costa qui lui fait la passe.
C'est Dybala. C'est Costa qui fait partir l'action, qui a fait un grand match ce soir.
Dybala, il a tout le temps, il prend son temps pour faire la passe. Et le défenseur central de Naples, il sait qu'il y a Higuain qui est là. Il lui laisse tout le temps.
Parce qu'ils vont droit sur Costa qui va dans l'axe.
Oui, mais ça fait rien. Ils sont beaucoup plus déjà en défense. Il sait que Higuain, il est tout seul. Il sait qu'il peut la donner que là. De toute façon, il ne peut pas la donner là parce que ça ne fait pas une passe de but. Alors que le croisé, ça ne peut faire qu'un contrôle d'Higuain pour terminer. Et il lui laisse l'espace. C'est incompréhensible.
Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci les drôles de dames d'avoir été avec nous.
Ciao à tous.
Merci.
Rendez-vous le 14
juin. Ouais, on se reverra d'ici là, mon Fredo.
Ben oui. D'ici la Ligue des Champions d'ici.
Tremble, Fred Hermel. Tremble cette Espagne qui est tombée dans un combat abominable. Tremble.
Merci Ali Benarbia. Merci Daniel Riello. Merci à Cyprien Béthou, à Flavien Ziolkowski qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et à toutes les équipes techniques. L'After revient demain, bien entendu. Merci à toutes et à tous. Bisous. Ciao.